vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct dans cette émission du lundi 25 novembre 2024. Aujourd'hui, on va parler de la situation dans la grande distribution. Et pour cela, nous sommes en compagnie des salariés de Monoprix. Et donc, on va parler de la situation justement à Monoprix et on va le faire avec nos invités mais qui vont se présenter.
Bonjour à tous, c'est Alain. Voilà, Monoprix, collectif CGT Monoprix, représentant et délégué syndical Monoprix Gambetta, 92.
Bonjour tout le monde, moi c'est Lamia, élue Monoprix au 18e.
Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Soumaya, je suis représentant syndical central à Monoprix, et notamment je suis élue et déléguée syndicale à Monoprix Unipoto.
Voilà donc pour poser un petit peu la situation. Monoprix fait partie du groupe Casino et ça fait quelques années qu'il y a quand même un plan de remettre un petit peu les choses un petit peu en place dans ce groupe. Et il y a eu quand même un consortium donc qui est mené par un homme d'affaires, donc Daniel Kretinsky. Tout cela est adossé à un fonds d'investissement à Testor qui prend le contrôle fin mars du distributeur. Donc c'est l'ancien secrétaire d'État d'Emmanuel Macron, donc Laurent Pietraszewski, qui est nommé président du conseil d'administration. Alors, il y a eu plusieurs dates. Le 27 mars 2024, donc la dette de l'entreprise est revue de manière très significative et ses actionnaires vont être massivement dilués par rapport au capital des repreneurs, donc les milliardaires, donc M. Daniel Kretinsky et Marc Ladret de la Charrière, adossés au fonds d'investissement Adestor. Et Casino comptait fin 2022 200 000 salariés dans le monde, dont 50 000 personnes en France. Et moi, j'aimerais qu'on commence un petit peu justement par ce qui se passe un petit peu dans le groupe Casino et qui atteint effectivement Monoprix. Est-ce qu'on peut déjà refaire un petit peu un bilan de ce qui se passe un peu dans le groupe Casino avant d'en arriver effectivement à ce qui se passe pour vous à Monoprix?
Déjà, c'est le nouveau groupe Casino. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y avait 205 000 salariés dans le monde, parce que Casino, c'était aussi en Amérique du Sud. Il y avait énormément de filiales. Et sur le territoire français, il y avait les groupes Casino, étaient composés des casinos, géants casinos, hyper supermarchés casinos. Vous avez les Franprix, vous avez les petits casinos, vous avez les Spar, vous avez les Separ, vous avez les Vival, qu'on voit souvent en province, dans des petites communes rurales. Et vous avez aussi, Monoprix a intégré le groupe en 2013. On a été racheté parce qu'avant, on appartenait au groupe Galerie Lafayette. C'est voilà, Monoprix, Monop, Deli Monop, Naturalia. Voilà. Et il y a aussi ce discount qui appartient au groupe Casino. Voilà un peu. Voilà. Comme tu l'as dit, c'était oui. Il y avait, on était 205 000 dans le monde avec l'Amérique du Sud et aussi les Moyen-Orient, les Maghreb. Malheureusement, on est l'ombre de nous-mêmes. On est passé des 255 000 salariés dans le monde actuellement à 27 000 salariés plus ou moins, rien que concentrés sur le territoire français. Toutes les filiales Amérique du Sud, et Moyen-Orient, Maghreb, ça a été vendu parce qu'il y avait une dette quand même de 12 milliards d'euros.
Mais cette dette, du coup, elle arrive comment? Comment elle arrive, cette dette, du coup?
Alors, cette dette-là, M. Naouri, quand on le surnommait les Mozart de la finance, hein, Espérant Finance, il rachète, et voilà, il s'endette. Et pour la petite histoire, M. Jean-Charles Naouri, c'est l'ancien directeur des cabinets de l'ex-ministre des Finances sous l'ère Mitterrand, qu'on appelait Pierre Bérégovoy. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait de grosses études, hein, et voilà, et comment il s'est établi son empire. Une fois qu'il a quitté le gouvernement en 91, il s'est intéressé à la grande distribution, notamment en achetant les sociétés Rally en Bretagne. Et c'est avec Rally qu'il a réussi en 92 à faire un opas sur le groupe Casino qui était, pour la petite histoire, c'est détenu par la famille Geoffroy Guichard. Voilà.
Ouais. Et c'est vrai que là, il y a eu un peu une accélération l'année dernière, puisque, comme je le disais en introduction, il y a eu une espèce de redistribution en interne. Comment vous l'avez vécu un peu, ce qui s'est passé pour le groupe?
Tout d'abord, je voudrais parler du PSE de Casino. Au début, il y avait 3000 licenciements plus ou moins sur le siège, quelques entrepôts et des magasins qui n'ont pas réussi à être vendus. Il devrait y avoir plus de licenciements au siège de Saint-Étienne, mais il y a une intervention des politiques, le conseil régional, les députés et notamment l'ex-ministre Monsieur Bruno Le Maire. Résultat, il y a eu moins de licenciements au siège Casino de Saint-Étienne, mais il a fallu toucher au siège de Monoprix et Franprix. Donc tu pourras dire les postes qui ont été touchés, combien de suppressions de postes?
Du coup, vu à ce PSE, le résultat, on a supprimé 95 postes, dont 8 modifications de contrats et 2 créations de postes. Il y avait 14 postes en gestionnaire de paye. En gestionnaire de formation, on a eu 2 postes. Et en juriste, on avait 4 postes. Comptabilité fournisseur, on a eu 10 postes. Responsable de paye, 4 postes. C'est le plus important qu'on a pu garder.
Ce qui a obligé la mutualisation de la paye et des frais généraux de Monoprix, Franprix et autres entités. C'est pour ça que le service de paie de Monoprix, c'est son dernier mois à Clichy. Hein.
D'accord.
Voilà. Et après, on pourra parler de l'impact du PSE sur Monoprix, l'impact que ça a eu, ce PSE. Enfin, Madeleine. Plan sauvegarde de l'emploi. Hein.
Madeleine.
Oui, ça nous fait toujours beaucoup, beaucoup rire, cette formulation, plan de sauvegarde de l'emploi. Il y a encore de ça, pas si longtemps, ça s'appelait un plan de licenciement. On va garder celle-là. Si j'ai bien compris, c'était juste pour être bien certaine de suivre ce que vous nous racontez, parce que il y a plusieurs noms de magasins différents. Quand à Saint-Étienne la victoire a été gagnée, en fait, le groupe en a profité par derrière finalement pour répartir les différents licenciements qu'ils avaient prévus sur Saint-Étienne, sur en fait d'autres branches du groupe qui, elles, peut-être ne présentaient pas la même combativité.
Oui, parce que Monoprix, dans le jour d'aujourd'hui, il va bien, mais on a été vraiment touchés par Casino. Hein. Monoprix n'avait pas besoin d'un PSE, hein. C'est Casino. Mais malheureusement, Monoprix a pris cher à la place de Casino. Hein.
Et puis il y a aussi la redistribution d'une partie des magasins sur d'autres secteurs de la grande distribution aussi.
Bah, justement, face à, à l'ampleur de la dette, nous, les futurs, les nouveaux repreneurs, ils n'avaient pas d'autre choix que de vendre, de céder plus de 400 magasins hyper et supermarché casino à la concurrence, c'est-à-dire Intermarché, Auchan et Carrefour. Et on reviendra par rapport à l'histoire d'Auchan, parce que c'est vraiment, honnêtement, on peut reprendre un magasin, on reprend 90 magasins, au final, on annonce un PSE et on ferme certains magasins. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'il y a eu, à la date du 30 septembre, et il manquait encore 25 magasins qui n'avaient pas trouvé repreneur, ni Auchan, ni Carrefour, ni Intermarché. Et d'où, au 1er octobre, il y a à peine 4 magasins sur 25. Du coup, il y a 21 magasins casino qui ont fermé. C'est équivaut, comme elle a dit ma collègue, à peu près 3 000 postes, quoi. Voilà.
Et comment les salariés ont-ils réagi, en fait, par rapport aussi à toutes ces fermetures, les différentes luttes peut-être qu'il y a eu à l'intérieur? Que s'est-il passé par rapport à ça? Quelles ont été les réactions?
Les salariés, ils sont un peu perdus. Voilà, ils vivent du jour au jour, ils sont dans l'incertitude, dans l'inquiétude. Ça a impacté leur santé morale. Voilà, il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'avenir chez Monoprix maintenant. Moi, je vois, la petite jeunesse, elle vient, on l'embauche, le lendemain, ils partent parce que, ils ont ce ressenti de dégradation de cette marque de commerce.
Mais cette marque de commerce, quand même, elle est quand même assez connue, on va dire. Il y a quand même quelque chose qui fait que ça aurait dû quand même avoir plus d'ampleur quand même pour éviter cette casse quelque part. Qu'est-ce qui pourrait manquer un peu pour que ça soit? Parce que je sais qu'il y a plusieurs années à Monoprix, il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu des blocages, il y a eu tout ça. Est-ce que, pour compléter un peu ce que disait Madeleine, est-ce que là il y a eu ce genre d'action aussi du coup?
Bah écoutez, l'intersyndicale de Casino, il me semble que tout au début, ils avaient fait des mouvements, mais surtout les dimanches, faire un mouvement au 16 de Saint-Étienne, l'intersyndicale. Après, comme on dit, c'est déjà acquis. Hein. À partir du moment où vous avez signé que les syndicats réformistes, notamment FO, qui est majoritaire au sein des casinos, hein, FO et toute la UNSA, comme on dit, nous, c'est la mise en scène. Faire un manifester devant les 16 de Saint-Étienne un dimanche. Ah oui, les patrons, ils sont contents. Hein, si tous les entreprises, les salariés pouvaient manifester les dimanches, parce qu'ils disaient, on ne dérangeait personne. Et il n'y a pas vraiment eu de mouvement. La CGT, si, on en a fait, nous, notamment à Paris, Masséna, hein, le 25 décembre ou le 30, 24 décembre, on a fait un mouvement, on a fermé. On a réussi à fermer les magasins des Masséna de Paris 13e. Voilà, nous, à notre niveau, nous, on venait, nous, les Monoprix, on signe de solidarité et de soutien, parce que c'est quand même la maison mère. Quand même nos collègues, quoi.
Évidemment, notamment parce qu'on sait aussi que c'est une technique utilisée par le patronat, hein, de découper en différentes enseignes et de ne pas mettre tous les salariés à la même hauteur, alors qu'en réalité, vous n'avez qu'un seul décideur qui est le même pour tous ces groupes-là. Une des questions aussi que je me posais quand vous me racontez cette histoire, c'est en réalité, vous avez payé le fait que la maison mère était en dette. C'est donc une fois de plus les salariés qui en fait payent les pots cassés de mauvais investissements, en tout cas mauvais investissements pour vos vies. Je suppose que en réalité le groupe se porte mieux depuis que il a pris ses décisions. Quelles ont été, est-ce que par hasard, hein, parce que on se doute que la direction ne donne pas toujours les raisons, mais comment est-ce qu'ils ont justifié ces mauvais investissements? Parce qu'on vit quand même dans une époque actuellement où on a de nombreux décideurs qui font des choix d'investissement, des choix d'économie, qui mettent tout le monde en fait en dette. Ça commence à devenir un peu habituel, même à Bercy on y a le droit. Ah tiens, on a fait une erreur de comptabilité, maintenant c'est au petit peuple de payer. Que vous a dit votre direction pour justifier cette dette, ces mauvais choix d'investissement? Elle a donné des raisons?
Ben écoutez, c'est simplement, ça c'est la mauvaise foi, parce que c'est un monsieur, comme je disais au début, on l'appelle l'expert en finance, le docteur en finance, il a tous les diplômes, hein, comme quoi les diplômes ça prouve que ça, voilà. Et que c'est des dettes, hein, en fait, il empruntait l'argent qu'il n'avait pas, en pensant qu'il allait avoir un retour sur l'investissement. C'est ça qui a fait que ça fait la question qu'on se pose aussi, je prends par exemple nous le Monoprix, comme disent mes collègues, hein, aujourd'hui nous on paye les conséquences, parce que nous, je m'excuse, nous on avait ce qu'on appelle la prime des participations. Bah cette année on l'a pas eu, Parce que nous, on était propriétaires des murs des magasins. On n'était pas locataires. Il y a eu la cession de vente. Il aurait vendu des murs des magasins qui a rapporté plus de 800 millions d'euros. Et quand on voit la courbe de la dette, on s'est dit, bon, 800 milliards d'euros, ça a permis peut-être de d'éponger une partie de la dette. Non, on se rend compte, en fait, la dette, elle ne fait que monter. Où est partie toutes les cessions des magasins, les ventes des murs et compagnie? Et comme on revient toujours, c'est nous qui payons. Là, cette dette, c'est comme on dit, il s'est surendetté en espérant, parce qu'il a acheté des enseignes, notamment Monoprix, alors qu'il n'avait pas. Il n'avait pas d'argent. Moi, je pense que la garantie, c'était quoi? Bah, c'est nous les salariés. En gros, c'est ça.
Ouais, vous êtes un peu les variables d'ajustement, quoi.
J'en veux.
Pour vous, comment vous l'avez vu aussi, ce moment-là, justement de où c'est un peu vous qui êtes un peu la variable d'ajustement. Comment vous l'avez vécu pour vous, pour Lamia et puis Soumaya?
Parce que Lamia, elle a été vers les salariés qui allaient être licenciés. Donc, elle pourra vous en parler plus de ces personnes-là, parce qu'elle leur a parlé et tout.
Moi, je faisais partie du groupe qui négociait pour ce PSE. Un jour, la CGT, elle a décidé d'aller voir les gens de la paye, les gens qui ont été licenciés au siège. On a été un beau matin. Et moi, je voyais des personnes d'un certain âge. Elles étaient un peu perdues. Elles ne comprenaient pas. On leur a expliqué que voilà... Aujourd'hui, on est autour d'une table pour négocier vos départs, parce que ça a été déjà déclenché, le PSE. Hein. C'est, voilà. Après, il fallait négocier certains avantages pour eux, pour qu'ils ne puissent pas partir les mains vides. Quoi. Et moi, je voyais un désespoir et elles étaient perdues. Ces personnes-là, elles étaient vraiment perdues. Mmh. Voilà. Moi, personnellement, j'ai eu le ressenti, voilà, je me voyais. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est les gens de la paye. Demain, ça va toucher les employés de Monoprix. Personne n'est à l'abri aujourd'hui, voilà.
Qu'est-ce qu'on leur proposait?
Ben, on a pu quand même, on a travaillé avec la CFDT, on a travaillé avec la CGC. Et on a pu quand même, la CGT, elle a pu quand même travailler. On a travaillé ensemble avec ces syndicats-là. On a pu décrocher certaines choses, certaines... je ne sais pas comment on appelle ça, les...
Une compensation peut-être,
voilà, une compensation, voilà. Mais en fin de compte, ce PSE ne devait même pas être, être validé, quoi.
Alors justement, puisqu'on parle de PSE, moi j'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce que c'est ce mécanisme de plan de sauvegarde de l'emploi, comme on disait en introduction, plutôt plan de licenciement. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est justement un PSE? Parce que pour les gens qui nous écoutent, on entend beaucoup parler dans les médias, mais justement, nous expliquer un peu ce que c'est.
C'est un plan de sauvegarde de l'emploi, normalement.
Ouais.
On fait un plan pour dispatcher les gens, voilà. Le but, c'est qu'on les laisse dans l'entreprise. Moi, je sais qu'il y avait des gens qui leur restaient un an, deux ans de la retraite. Et voilà, et ils ont été giflés par ce plan de sauvegarde de l'emploi. Il n'y avait pas le choix. Hein.
Il n'y avait pas le choix. Après, tout dépend aussi du rapport de force qui est mis à l'intérieur. C'est un peu la complexité,
ouais,
de ça.
Je suis désolée, quand les autres syndicats, ils signent, ils ont été positifs pour ce PSE. Voilà, ils ont sorti leur stylo plus vite qu'il fallait. La CGT, elle est restée bouche bée et les mains croisées. On ne peut rien faire quand on n'est pas majoritaire aussi au siège. La CGT, elle n'est pas majoritaire. On a essayé de négocier, on a essayé... Non, mais la CGT, la CFDT, voilà.
Madeleine.
Tout à fait, c'est ça qu'on entend aussi au niveau de rapport de force. C'est-à-dire que ce qu'on note dans votre histoire et dans ce que vous racontez, c'est qu'en dehors aussi, là, pour le coup, dans cet intersyndical de la CGT, il n'y a pas eu de volonté de mettre en place un rapport de force. Et qu'il y a, il y a d'autres organisations syndicales, apparemment, qui, décidément, ont de plus en plus, finalement, des pratiques de co-gestion. Où la question d'abord défendre les salariés, quitte à construire un rapport de force et de passer par là, est une méthode qui se perd en réalité. Et c'est un vrai problème, puisque comme ce que vous le racontez aussi, moi je ne peux m'empêcher de faire le lien avec différentes autres histoire que j'ai pu entendre au niveau de l'industrie ou même des médias autour de la question même de la concentration. C'est-à-dire que vous avez un groupe avec une concentration en fait des pouvoirs qui se met à avoir plein d'enseignes diverses et variées, et invariablement on remarque que quand il y a une concentration des richesses à un endroit, eh bien il y a toujours des PSE derrière, en fait. C'est continuellement ce qui est fait. Donc, on a de plus en plus des grands patrons de médias, de grandes enseignes alimentaires et consorts qui, en fait, ont énormément de pouvoir. Et leur technique, invariablement, quand même, c'est de commencer par licencier. Quand vous racontez cette histoire par rapport à principalement des gens qui sont proches de la retraite, quand on sait qu'en plus la réforme des retraites est passée il n'y a pas longtemps, c'est véritablement un scandale en fait. Tout le monde est au courant de la réalité dans laquelle on vit et des difficultés que ça présente. Et le fait de ne pas considérer qu'on va d'abord mettre en avant les intérêts des salariés, quitte à se mettre en danger, c'est quand même une attitude syndicale un peu particulière et c'est un choix idéologique et politique aussi au sein des organisations, il me semble. Oui, c'était une petite remarque. Oui, je suis un peu agacée parce que vous me racontez. C'est surtout une remarque.
Aujourd'hui, l'accord collectif majoritaire a été conclu le 5 août en 2024 portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre d'un PSE. Voilà, au sein de la société Monoprix.
Ça a été validé
par la Directe.
La Directe, c'est l'inspection du travail.
Elle a validé ce soi-disant plan sauvegarde à l'emploi parce que les deux syndicats qu'ils ont signés, qu'ils ont été d'accord, comme la CFDT, elle est majoritaire. Donc la CFDT et la CGC, ils ont signé cet accord. Donc il a été validé. Il aurait pu ne pas l'être. Malheureusement, il a été signé.
Ouais.
Et puis aussi cette histoire, mettre en avant quand même là, quand vous parlez de la Directe, la complicité de l'État aussi. C'est-à-dire que c'est une volonté économique mise en place par les patrons, mais dont l'État est absolument complice. Et donc après, nous, vous nous racontez comment est-ce qu'il y a des plans de licenciement qui sont mis en place. Et puis nous, après demain, dans les médias, on va entendre la prochaine réforme sur le chômage, par exemple. Voilà.
Parce que comme dirait notre secrétaire général Sophie Binette, ces entreprises qui passent leur temps à faire des plans sociaux, hein, ces mêmes entreprises, grâce à nous les contribuables, grâce à l'argent de nos impôts, la classe moyenne, la classe ouvrière, c'est nous qui faisons en sorte que ces entreprises-là perçoivent les aides de l'État. L'État, c'est qui? C'est nous. Ça soit Monoprix, toutes ces entreprises-là qui mettent en place des plans de licenciement. Ils doivent rembourser. Je me rappelle à la base, quand Hollande, un certain François Hollande arrive au pouvoir, il a mis en place les crédits compétitifs.
Crédit impôt compétitivité voilà. Emploi. Oui.
Et qui servaient soi-disant à créer des emplois et à maintenir, éviter les licenciements, avec la complicité de l'ancien président du MEDEF, Pierre Gastaz. Et en fait, au final, cet argent-là, on a l'impression qu'elle est détournée. Ça ne crée rien du tout et ça ne fait que détruire les emplois. Dans ce cas-là, ces entreprises doivent rembourser. Normalement, toute entreprise qui bénéficie de l'aide de l'État pour soi-disant pour maintenir les emplois ou en créer, ils doivent rembourser. C'est notre argent, c'est l'argent du contribuable à travers la classe moyenne et la classe ouvrière. C'est sans doute pas l'argent des milliardaires parce que quand on sait où ils vivent les milliardaires, on va revenir un peu, si vous le souhaitez, plus tard. Concernant le groupe, la famille Mulier qui détient l'empire, la grande distribution entre Auchan, Decathlon, Boulanger, et ces gens-là ne vivent pas en France. Ils créent de l'argent en France, mais ils ne vivent pas sur le territoire français. Pourquoi? Pour ne pas payer les impôts. Voilà. Mais eux, on ne les envoie pas les CRS. Quand il y a 150 milliards qui dorment dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire moi comme vous, quand vous ne payez pas, on vous massacre. On vous fait des saisies sur salaire. Il faut qu'ils arrêtent de nous parler baratiner. Oui, la crise. Non, en réalité, il n'y a pas de crise. Il y a des crises pour nous, mais pas pour eux. C'est un peu des coups de colère.
Eh bien, pause musicale.
Da 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 Thinks we're all the mother. Who are they to judge us?
Mother, mother,
simply cause we wear our hair long.
Mother, mother,
Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM jusqu'à 13h30. Vous êtes à l'écoute de l'actualité des luttes. Et aujourd'hui, on parle de la situation à Monoprix. Justement, avant la pause musicale, on a un petit peu décrit ce qu'était le fameux plan de sauvegarde de l'emploi. On dira plutôt ce plan de sauvegarde de licenciement. Il y a aussi un peu des pressions, justement, pour vous. Comment ça se passe, justement, parce que voilà, vous avez pris aussi des responsabilités syndicales. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment se passent ces pressions pour effectivement que vous acceptiez l'inacceptable, quoi, quelque part.
Ben, écoutez, il y a une forte pression sur les élus, notamment CGT, contrairement à la CFDT et la CGC. Dernièrement, j'ai un camarade à moi qui a reçu l'huissier dans son magasin. Il a été mis en demeure. Tout ça parce que Monoprix suit les réseaux sociaux de tous les élus CGT, enfin tout ce qui concerne Monoprix, et notamment les CGT. Et tout ça parce qu'il a mis, enfin il a parlé de ce qui se passait dans les magasins. La réalité, ouais, tout simplement. Et là, on lui demande de retirer sa vidéo, sinon il va être assigné. Parce qu'apparemment, Monoprix n'a pas d'argent, mais il a de l'argent pour les avocats. Ouais. Les assignations, c'est pas ça qui manque, hein, parce que ça défile au tribunal à porte-cliché. Ça me fait rire, mais ça me fait de la peine parce que c'est, on n'a plus le droit de parler de quoi que ce soit. C'est la liberté d'expression. Ils essaient de nous l'enlever, mais qu'ils veulent ou pas, ben on continuera toujours à parler.
Voilà. Ils ont un moyen quand même pour agir pour essayer de vous casser, quoi, aussi. C'est quand même assez hallucinant, alors que on est soi-disant dans un état démocratique où les gens peuvent s'exprimer, mais jusqu'à un certain point, en fait. C'est-à-dire que l'entreprise, elle garde encore la main sur ses salariés et peut les impressionner, quoi.
Pas sur tous les salariés, sur les élus CGT. C'est pas pareil, hein. Dès qu'il y a des CGT, là, mon camarade, il a balancé une vidéo où il parlait de la réalité de ce qui se passait sur le terrain, parce que les gens, ils ne savent pas ce qui se passe dans les monoprix, comment ça se passe avec les directeurs, la pression que les directeurs y mettent aux salariés. Et bien, il a été mis en demeure, on lui demande de retirer sa vidéo. Alors que je ne vois pas pourquoi. Il dit que la vérité. Il n'a nommé personne, il parle de ce qui se passe dans les monoprix. Et bien, on lui met la pression. Il a déjà été assigné auparavant. Et il a l'habitude avec eux, parce que là, c'est leur bête noire. Dès qu'ils posent quelque chose, bah, assignation. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Monoprix dit qu'ils n'ont pas d'argent, mais par contre, ils ont l'argent d'avocat pour assigner les gens.
Ouais.
Voilà.
Alors, c'est vrai que la discrimination syndicale concernant les syndicats de combat ne cesse d'augmenter, et ce, dans la plupart des entreprises ces dernières années. Alors, je voulais te demander, peut-être toi, Alain, qui est syndicaliste depuis un bout de temps dans ce groupe, est-ce que tu as senti une augmentation de la discrimination syndicale ces dernières années? Comment est-ce que tu as senti évoluer aussi le rapport et les possibilités de lutte au sein du groupe?
Bah écoute, c'est compliqué, ça s'est aggravé de pire en pire, que ce soit à Monoprix, parce que comment comprendre? On est par nos étiquettes, par ceux qui ont été dans le magasin, des porte-voix, des salariés sans voix, des porte-paroles, justement, on est les liens entre la direction et les salariés. Et aujourd'hui, en fait, on veut museler tous les élus ou les représentants syndicaux ou délégués syndicaux qui osent dire toute la vérité. Rien que la vérité, ça leur plaît pas. Le seul moyen, c'est la répression syndicale. On le voit à Monoprix, on le voit notamment pour nos camarades Gaël Quiron qui a été licencié après le refus de l'inspection du travail. Le ministre du travail à l'époque, c'était Mireille
Pénicaud
qui l'a licencié. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Avant les réformes Macron, Hollande et toute la clique, c'est-à-dire aujourd'hui, quand l'employeur demandait un licenciement auprès de la directe, ça a été, quand la directe refusait, automatiquement, c'était bâclé. Là, maintenant, ils ont la possibilité d'aller au-delà, même si la directe refuse le licenciement, d'aller au-delà, c'est-à-dire demander au niveau du ministère du Travail. Et généralement, ça se traduit par le contraire, c'est-à-dire souvent, le ministère du Travail ne suit jamais la décision de ces bases, c'est-à-dire la directe, quoi. Et moi, je crois que chez les cheminots, en fait, il y en a partout. Moi, je n'aurais jamais imaginé que j'ai connu les tribunaux par mon employeur. Parce que j'ai des noms, parce que, je sais pas, moi, j'ai l'ADN de la CGT. On essaie de revendiquer, les faits de revendiquer, dénoncer, manifester. ça fait de nous des délinquants. Ça fait de nous des délinquants. Notre employeur nous assigne. Parce que leur peur, c'est quoi ? Qu'on puisse avoir tous les salaires avec nous, leur empêcher dans leur politique mortifère. En grosso modo, ils sont là juste pour faire du pognon. Pour nous, on n'est rien.
Tu pourrais peut-être rappeler justement ce que tu as eu à faire, toi, à la justice, par rapport à Monoprix, il y a 2-3 ans, je crois, Alain, si j'ai bonne mémoire. Tu pourrais te rappeler un petit peu, justement, pour illustrer un peu ce que tu disais.
On est abonné, hein. On est abonné, oui. Je fais partie des gens qui ont assigné à plusieurs reprises, cours d'appel et compagnie. Après, c'est vrai que c'est malheureux. Mais ces techniques d'intimidation, ça ne me fait pas reculer. J'ai continué à être le militant, parfois militant de la CGT. Et voilà, quoi. Et si il y a des camarades, si je suis encore debout, c'est pas grâce. Humainement, c'est grâce aux camarades, au soutien des camarades. S'il n'y a pas de camarades, si vous n'êtes pas soutenu, vous ne pouvez rien faire. Voilà, simplement par rapport à ça. Et on a besoin de tout le monde. C'est grâce aux camarades. Ça, les gens, j'oublie. Hein. Moi, Alain, je ne suis rien du tout. Hein. Parce que croyez-moi, s'il n'y avait pas de camarades avec moi, le soutien, je serais dans mon coin. Il y a longtemps, j'aurais quitté Monoprix. Hein.
Alors, au-delà du PSE, quelles sont un peu les autres difficultés qu'il y a dans vos magasins ? Parce qu'on a parlé de ce plan de sauvegarde de l'emploi, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il se passe d'autres choses.
Là, je vais vous dire l'impact qu'a eu ce fameux PSE sur Monoprix. Alors, il y a eu des gels, des embauches. On n'embauche que des CDD depuis le mois de juin. Alors, ça empêche le recrutement des caissiers, sachant que le nouveau patron d'aujourd'hui, il veut réhumaniser le secteur caisse.
C'est beau, ça.
C'est mignon.
C'est superbe.
C'est mignon parce qu'il s'est rendu compte que les caisses tapis ne rapportaient rien du tout. Donc, il fallait ouvrir que les clients, ils ont besoin de contact humain et non pas une machine.
On les appelle pas des hôtesses de caisse ?
Ouais. Hein ? Donc, c'est pour augmenter un panier. Il y a plus d'investissement dans les magasins. Donc, si vous rentrez dans des monoprix, c'est vachement dégradé. Je ne parle pas de tous les monoprix, hein. Certains monoprix, hein. Parce que même au sein de Monoprix, il y a de la discrimination entre les magasins Monoprix. Hein.
Ça dépend le quartier, quoi.
Ça dépend le quartier. Mmh. On est dans le 8e, dans le 16e, on est bien.
Hein. Bon, aux Champs-Élysées, ça doit être bien, quoi.
Dans le 18e, par exemple, le nôtre. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Donc, pour vous dire, il n'y a même pas de déco de Noël. Ils n'ont pas les moyens de payer la déco de Noël. Quand vous rentrez dans un magasin aujourd'hui à Monoprix, il n'y a pas de déco. Mais par contre, moi, j'ai fait quelques magasins. Des gros magasins, la déco, elle est magnifique. Ils ont réduit les heures de ménage, les heures de gardiennage. Mais par contre, dans d'autres magasins où j'ai vu avec mes propres yeux, j'ai vu qu'il y avait 4-5 hommes de ménage en plein jour. J'étais dans un magasin aussi, l'agent de sécurité, il est arrivé à 15h. Il n'y a pas d'agent de sécurité le matin. Un seul vigile pour un magasin. Tout ça, c'est dû, soi-disant, au PSE. Alors, reste à voir, parce que les autres magasins, ils ont tout ce qu'il faut, les grands magasins, et les petits magasins, ils n'ont rien. Et après, on va revenir sur la nouvelle organisation de Monoprix. Voilà.
Bien, allons-y, justement. Alors, cette nouvelle organisation, qu'est-ce qu'elle dit, justement, là-dessus ?
Elle est magnifique. C'est le travail à 5h du matin.
Alors, justement, comment ça s'illustre, ça, justement ?
Bon, il faut que les salariés, à base de volontariat, hein, entre guillemets, hein.
D'accord.
Volontariat.
Ouais. On sait ce que ça veut dire.
Volontariat, ça veut dire beaucoup de choses. Je te laisse la parole pour finir, s'il te plaît.
Là, aujourd'hui, Monoprix, il a décidé de recevoir sa marchandise le matin à 5h du matin. Comme elle a dit ma collègue, au volontariat. Il nous faut la direction avec deux encadrements pour que... Pour eux, c'est pour faire avancer le travail avant l'ouverture du magasin, pour ne pas pénaliser le client. Pour que ce soit, on ait des allées dégagées, le frais sera à sa place. Du coup, moi, je parle de mon magasin. La direction a fait une réunion. Elle a été voir même les employés pour leur demander de venir à 6h du matin pour installer le frais avant l'ouverture du magasin. Chose qui est un peu délicate. Moi, je parle de mon magasin. La majorité, c'est des femmes.
D'accord.
Aujourd'hui, moi et ma collègue... On a fait le tour le matin, on leur a posé la question. Elles ne sont pas trop d'accord parce que voilà, c'est des petites jeunes, elles ont des bébés en bas âge, elles habitent loin. Malgré que Monoprix aujourd'hui, il leur offre, on va dire,
ils payent
le
transport,
voilà, le Uber ou le taxi. Mmh. Et en contrepartie, ces employés-là, ceux qui commençaient avant à l'heure habituelle, quand on finit après 1h de l'après-midi, on a nos tickets resto.
D'accord.
Bah, ça, la récompense, voilà. Mmh. Aujourd'hui, si ces personnes-là avancent leurs horaires, leurs tickets resto, ils vont être supprimés.
D'accord.
Ah, mais ils vont avoir un sandwich à la place.
Ah, ah, attention, pas mal.
Hein. Attention.
Et donc
un sandwich, la marque Monoprix. Alors, on a le choix, au thon ou au jambon beurre.
D'accord.
Avant de venir à l'émission, j'étais faire un tour dans le rayon. Je voulais juste voir le prix. 1,29€.
Ah oui.
Autre chose, ce taxi-là, il faut que la personne avancera l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Elle essaiera de s'approcher, ouais. Puis on va lui rembourser. Mais bon, ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège-là d'avoir de l'argent en avance. Ouais. Quand on voit les salaires d'aujourd'hui, voilà, pour le coût de taxi qui est 20€ par jour, cela représente environ 120€ par semaine, soit 480€ par mois. Une dépense intenable. Ça, moi, personnellement, si je dois faire ça, voilà, je vais avoir des jetés de prélèvement et voilà, je vais pas pouvoir survivre et suivre la cadence de un mois par rapport à mon salaire.
Le salaire en moyen, il a combien à peu près pour
On va dire 1 400€.
D'accord.
Voilà, 1 400€ brut. Voilà, brut. 35 heures, voilà.
D'accord.
Pour un débutant, quoi.
Ouais.
Voilà.
Ouais, donc effectivement, ça fait pas lourd, quoi. Voilà. Ça fait pas lourd.
Et cette nouvelle organisation n'est pas seulement un fardeau financier, elle est aussi une mise en danger de salariés. Le travail en horaire décalé a des efforts graves sur la santé. Par exemple, la fatigue chronique, il va y avoir un trouble de sommeil. Pour quelqu'un qui commence à 5 heures du matin, ici, il habite loin, c'est qu'il se réveille à 3 heures pour prendre un taxi à 4 heures. Voilà, vous voyez ce... Mmh. Voilà, c'est ça qui va déclencher les accidents de travail parce que la personne ne sera pas concentrée sur son travail, elle sera fatiguée, voilà. Il y a aussi dégradation de la qualité de vie. Je sais pas moi, ça va, voilà, il y aura plus de social, ça va être touché et pénalisé sur sa propre famille, hein. Moi, je vois les choses comme ça.
Oui. Mais c'est la réalité. Hein.
Après, chacun, il fait ce qu'il veut. Et voilà, heureusement, Monoprix, il propose ça en volontariat. Après, chacun est libre de ses actes.
Sans oublier que c'est un accord qui a été signé par la CGT. Non, pardon, c'est pas avec la CGT, c'est avec la CFDT et la CGC. Ils ont signé cet accord.
Les cadres.
Ils ont signé cet accord. Mmh. Si ils n'avaient pas signé cet accord, les salariés n'en seraient pas là aujourd'hui.
D'accord.
À leur demander de venir travailler 5 heures du matin à base de volontariat.
Mais alors, une question comme ça qui me vient, un magasin, ça a ouvert 8h30, c'est ça, 9h, c'est ça, hein,
8h,
d'accord. 5h du matin pour 8h, c'est quand même, c'est énorme.
Et ils leur demandent de la polyvalence, c'est-à-dire ceux qui arrivent à 5h du matin, il faut savoir qu'ils seront payés plus de 25%. De 5h à 6h.
D'accord.
Et de 6h à 7h, 5%.
Ah oui.
Ah oui. D'accord. C'est juste pour que les gens du frais, les salariés du frais, remplissent les rayons du frais. Mm-hmm. Et une fois qu'ils auront fini, qu'ils remplissent l'alimentaire.
D'accord.
Pour que les allées soient très bien dégagées, pour que le client, il est satisfait quand il arrive le matin. Les allées sont dégagées, les rayons sont remplis. C'est super, c'est bien, mais c'est au détriment de la santé des salariés.
Mmh. C'est l'ouverture de 5 heures du matin, ce n'est pas l'ensemble des employés qu'on précise. Il va y avoir la direction, un encadrement et le réceptionnaire. Mmh. C'est juste après 6 heures, c'est là où on a demandé à l'équipe de venir à 6 heures du matin. Ça veut dire l'équipe, elles vont faire le travail du frais, et après on va se basculer sur leur propre rayon. Mmh. Vous voyez, le cumul, la polyvalence.
Mmh. Mmh. Alors, c'est quand même des horaires d'ouverture quand même d'ample, puisqu'on a en gros 8 heures jusqu'à 22 heures quasiment, l'ouverture des magasins, 21h, 22 heures.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Comment les gens y vivent avec ces horaires? Parce que, comme vous le disiez, il faut quand même se déplacer. Les gens viennent de loin. Comment on fait une vie avec tout ça quand même ?
Mais ils ne seront pas là jusqu'à 22h, hein. Ils seront là jusqu'à, on va dire, midi, parce qu'ils vont avancer leurs horaires. Pour ceux qui font 6h, voilà, il faut calculer entre 5h et voilà, 6h.
Alors, certes, il y a plusieurs équipes.
Bien sûr, il y a plusieurs équipes. Ah, oui. Il y a l'équipe du matin, là, l'équipe de la jonction et là, l'équipe du soir.
Mais même s'il y a plusieurs équipes, c'est vrai, mais en même temps, ça veut dire que...
Le plus grand travail, il se fait le matin.
D'accord.
La remise au rayon, les remplissages des rayons, ils se font tôt le matin.
Parce que ça veut dire aussi que, par exemple, un jour, puisqu'on a vu quand même l'allongement des ouvertures de plus en plus tard, est-ce qu'on n'arrivera pas à un moment, dans ces conditions-là, à des ouvertures 24 heures sur 24 ?
Malheureusement, on le fait dimanche. Hein. Aujourd'hui, dimanche.
Donc, je veux dire, 24 heures sur 24, sans fermeture. C'est-à-dire que ça...
Peut-être ça va arriver. On n'est pas dans leur tête. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, il y a toujours des surprises. Hein.
Parce que c'est toujours un peu problématique. C'est-à-dire que ça commence comme ça... Ça, et puis ça, progressivement, ça se détériore, quoi. C'est ça un peu le problème, puisque il y a plus de dimanche, quasiment les magasins sont ouverts tout le temps, les fêtes, il y en a quasiment plus. Il y a que le 1er mai encore où c'est obligé de fermer, mais globalement, sur les fêtes et tout ça, tous les magasins sont ouverts. Oui. Donc ça pose aussi cette question quand même de, on prend ça, et puis après, ça continue à, ça, voilà, il y a plus que ça, quoi, en fait.
Aujourd'hui, il y a le pouvoir d'achat, tout est cher. On va ouvrir un magasin le 24. Mmh. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, le personnel, il vient travailler. Mmh. Parce que le salaire, déjà, il est bas. Ça lui fait une journée de plus par rapport à son salaire. Mmh. C'est un cercle vicieux. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, c'est par obligation qu'on est là. C'est pas par plaisir. Mmh. Hein, il n'y a pas le plaisir dans le travail aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis obligée de travailler telle heure et telle heure tous les jours fériés. Moi, personnellement, je fais les jours fériés des fois. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, bien sûr.
Voilà.
Moi, ce que j'ai l'impression de comprendre dans ce que vous racontez, c'est qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est la précarité, en fait, déjà du quotidien, donne encore plus de pouvoir à la direction. Et donc, en réalité, même le fait de venir travailler les dimanches ou soi-disant au volontariat, etc., c'est pas véritablement du volontariat. C'est parce qu'on est obligé, parce qu'on est dans le besoin, parce qu'en fait, les conditions de travail sont déjà mauvaises, parce que le salaire est petit. Et donc, en réalité, ce qui ressort aussi de ce que vous nous racontez, c'est que la précarité, c'est un outil aussi pour faire baisser la tête des travailleurs et les empêcher de se retrouver ensemble et de pouvoir faire une force, puisque effectivement on vit dans un monde où tout est dirigé par l'argent et où ces dernières années en plus tout le monde à son échelle a été confronté à l'augmentation des prix à tous les niveaux, que ce soit l'alimentaire, le logement, etc. Et donc évidemment j'entends complètement ce que vous racontez au niveau du cercle vicieux. La question que je me demande aussi, c'est comment est-ce qu'on... Dans quelle mesure, résultat, avec toutes ces histoires de primes, de volontariat, de précarité, etc., comment on fait pour aller voir les autres salariés, pour essayer de construire, en fait, faire une force, quoi ? Et comment... Est-ce que vous voyez des brèches ? Est-ce que les salariés sont à l'écoute ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il peut y avoir une volonté de se battre parce que vous êtes là et que vous êtes en mesure aussi de proposer d'autres alternatives que celle de la co-gestion avec la direction en signant finalement toutes les propositions assez scandaleuses qui vous sont faites ?
Aujourd'hui, on est des délégués de personnel. Moi, je parle de mon magasin avec Somaya. Quand on arrive le matin, on fait le tour du magasin. Et généralement, on est tout le temps sollicité. Limite, on est des assistants sociaux dans mon magasin. On va voir tout le monde, on leur demande s'il y a des problématiques. Ils reviennent vers nous. Nous, on va vers la direction. On propose, il y a des réunions de CSE. On pose ça sur les réunions. Il y a des moments où on arrive à avoir des solutions, quand c'est interne. Mais quand il s'agit des embauches qui ont été gelées, là, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, il y a une personne qui fait le travail de trois. Un arrêt de maladie n'a pas été remplacé. Un départ en retraite n'est pas remplacé. Un congé de maternité n'est pas remplacé. Un décès pareil n'est pas remplacé. Aujourd'hui, on fait partie de l'ancienne génération. On fait partie des murs Monoprix. Aujourd'hui, on travaille, on n'est pas nombreux et on n'est pas nombreuses là-bas. Ça veut dire, moi, aujourd'hui, je vois que la relève, elle est un peu compliquée et difficile. On arrive à embaucher des petits jeunes, mais ils ne restent pas parce qu'ils voient déjà que nous, on n'a pas de vie. Nous, on se force parce qu'on aime ce qu'on fait. On a un rayon, on a la conscience professionnelle, on est là, on gère et on travaille et on rame et on fait avec les moyens qu'on nous donne, avec un ancien magasin, avec plein de choses. Aujourd'hui, même la direction, si on va le voir, il n'a aucun pouvoir aujourd'hui, ce directeur-là. On va lui demander d'embaucher, ça ne vient pas de lui. Là, aujourd'hui, moi, je dis que la relève, ça va être un peu difficile. Ce n'est plus Monoprix d'avant. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la boîte. Ça se dégrade de plus en plus. On n'a plus le moral. Rien qu'hier, je parlais au téléphone avec ma collègue, avec ma Soumaya, et je lui disais, je ne m'éclate plus. Je viens travailler pour travailler. Avant, on venait au travail, c'était un plaisir de travailler. Et heureusement, on est au rayon, on côtoie la clientèle, et voilà, on parle et on est là pour subvenir aux demandes de cette clientèle qui paye cher chez Monoprix. La moindre des choses, c'est que voilà, on paye cher, on est là pour lui rendre le retour, voilà ce qu'elle demande. Mais aujourd'hui, le problématique, c'est la relève. Je ne sais pas comment ça va se continuer. Aujourd'hui, on a remplacé les caissières par des caisses automatiques. On s'est rendu compte que Monoprix a été pénalisé. Là, on va remettre les caissières. Mais cette caissière-là, l'ancienne, elle est foutue. On a tous des problèmes de santé. On a des problèmes de tendinite, d'arthrose. Même côté moral, hein, parce que le fait de faire toujours la même chose, on a appuyé sur deux caissières, on va dire trois allées de caisses, on trouve une seule caissière des fois, ou on va dire même deux caissières le samedi. En fin de journée, ça y est, cette caissière, elle est HS, elle est moralement, elle est détruite. Elle rentre chez elle, morte, quoi. Déjà, aujourd'hui, on a trouvé la solution, on va remettre les caisses. Je ne sais pas si on va fermer les caisses automatiques ou pas. Le premier souci aujourd'hui chez Monoprix, c'est les embauches. Tant qu'on n'embauche pas, tant que le problème, il restera toujours là. Voilà. Pour avoir des rayons bien remplis, pour avoir le sourire, pour avoir le relationnel, l'attitude, oui, avec le client, il faut embaucher. Voilà, c'est la seule solution.
D'où l'impact de ce fameux PSE. C'est ça, hein, c'est ce qui nous ramène, c'est le PSE. Hein, parce que là, ils ne peuvent pas embaucher des CDI. Ils ne peuvent embaucher que des CDD. Et pour trouver un CDD, ce n'est pas facile. Une personne ne va pas venir travailler un mois ou deux mois. Non. Les personnes, ils cherchent un CDI. Il n'y a pas de CDI à Monoprix.
Mais c'est au compte-goutte. Hein. C'est à la chandelle pour trouver un vrai CDI. Hein. Parce que le problème aujourd'hui, nous, on est au textile. Ça nous est d'arriver déjà d'embaucher des CDD. La personne, elle est là. Il faut la former. Il faut la suivre. Au bout d'une semaine, le lendemain, on la cherche. Elle n'est plus là. Vous voyez le... Et c'est un cercle, voilà. C'est rebelote et rebelote et rebelote. Après, à un certain moment, tout le monde est livré à lui-même et voilà.
Ben oui, en fait, ce que tu racontes, c'est un phénomène de turnover aussi qui est mis en place. Et autant ça pose problème parce que, évidemment, pour l'organisation du travail, ça fait que les conditions sont de pire en pire parce qu'au moins on est, au plus il faut augmenter la charge de chacun des postes, pousser vers plus d'adaptabilité, plus de polyvalence, tout ce que vous décriviez avant. Mais en plus, ce qui est un peu terrifiant avec un CDD, c'est qu'évidemment, si la personne, il faut la former pour en plus lui donner envie de se former politiquement, peut-être de se syndiquer, de faire la force avec les autres salariés, ce qui quand même donne aussi de l'énergie et permet de se sentir bien un peu des fois au travail, de se rendre compte qu'on a un peu de force collective, bien ça aussi, ça pose un problème. C'est-à-dire que comment construire ce qu'on appelle finalement ces dernières années une communauté de travail si les gens ne restent pas longtemps, et comment ensuite développer un mouvement autour de cette communauté de travail, un rapport au travail collectivement et de pouvoir le défendre si en fait on ne se fréquente pas, on ne se voit pas. Et ce qu'on remarque, c'est que tout est fait là en ce moment dans le groupe pour que d'une part, évidemment, on continue d'augmenter les marges qui sont faites sur votre travail en réalité, et qu'en plus on vous enlève tout ce qui pourrait vous permettre de résister et d'avoir du pouvoir. Et cela par vos conditions de travail, les types de contrats, le fait même que votre directeur n'ait pas de pouvoir décisionnel. Alors comment est-ce qu'on fait si on ne sait pas où est le pouvoir pour aller revendiquer sûrement l'organisation des postes et la fatigue. Parce que quand on est fatigué, comment est-ce qu'on fait pour aller à une réunion syndicale à 19h le soir ou même à 13h30 avant l'embauche, si déjà on sait que les 6 à 8 heures de travail vont être terribles? C'est très difficile de trouver cette force-là.
Mais pour vous dire même que le métier d'un directeur, ne fait plus son travail.
Constamment.
Il est H24 en train de remplir les rayons. Il n'y a plus de directeur, il n'y a plus de cadre. Les cadres, ils sont tous là en train de remplir. Le directeur, il est là à 7h, 8h du matin et on leur demande de partir très tard. Même eux, ils sont sous pression. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Ils n'ont plus de vie de famille. Hein. Ce n'est pas pour les défendre. Parce qu'avant, c'était un directeur qui pouvait gérer sa boutique. Mais là, non. Non. On lui demande de faire et il fait. Et s'il n'est pas content, bah, on mettra tous les moyens pour le dégager. C'est ce qui se passe en ce moment aussi. Parce qu'il y a beaucoup de nettoyage à Monoprix en ce moment.
Mais alors justement... Justement par rapport à tout ça, parce qu'on le voit dans d'autres chez d'autres distributeurs, c'est aussi un peu la même chose. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va falloir peut-être un peu lutter ensemble justement pour éviter de se faire laminer comme ça, quoi?
Écoutez, ça va venir. Hein.
Ça va venir, c'est les actions. Hein.
On est en train de travailler dessus.
Il y a des salariés qui nous disent pourquoi ne pas faire des actions le 24 et le 31. Hein. C'est là où ça fait mal à Monoprix. Hein. Voilà.
Et aussi, pardon, excusez-moi, je voulais juste rebondir par rapport à, comme elles ont très bien résumé mes collègues, justement, à travers nous, c'est vrai que les salariés, les gens ne restaient pas. Hein. Pourquoi? Il n'y a pas l'engouement, les salaires, ça ne suit pas. Et les patrons sont très malins. Quand on fait des NAO, négociations NAO obligatoires, ils sont toujours au bon vouloir. C'est-à-dire, toutes les revendications des partenaires sociaux, organisations syndicales, je n'ai jamais écouté. Ils imposent leurs propres négociations, et vous avez des syndicats, mes gens, hein, qui signent, une fois qu'ils ont signé, ils vont faire croire aux salariés, oui, c'est grâce à eux. Mais tu réclamais 5%, on t'impose 1%, et tu signes. C'est pas une victoire, c'est une défaite. Et les patrons, comme on dit, divisés pour mieux régner, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs organisations syndicales, en faire en sorte qu'ils personnent la majorité. Et c'est ça le gros problème. Aujourd'hui, les salaires n'avancent pas, parce que Comme elles l'ont très bien résumé mes deux camarades, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Quand on vient travailler un jour férié, c'est pas parce qu'on a envie, parce qu'on a des factures à payer, on a des gosses à nourrir, on a une famille derrière tout ça à nourrir. Entre tout augmente, sauf le revenu. On n'habite pas en bas de nous. Revenu à 5h du matin, ça fait à 3h30. Mais on ne sait pas à qui on a affaire quand on commande un taxi. Aujourd'hui, tous les jours, on voit les faits divers. Telle personne a été kidnappée. C'est ça aussi. Et il y a quoi comme récompense? Il n'y a pas de récompense.
Je veux juste revenir sur l'impact du PSE. En ce moment, les grands patrons, ils font aller tourner dans les magasins. Alors, figurez-vous qu'il n'y avait pas assez de caddies dans un magasin. Alors, ils demandent de faire des transferts de caddies entre magasins parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les caddies. Voilà.
Est-ce qu'il y a des dates de mobilisation quelque part dans le...
Bah, ça se travaille.
D'accord. Bon. Eh ben, on en reparlera du coup alors.
Vous seriez parmi nous.
Ben, carrément. En tout cas, merci à vous. Moi, je remercie Soumaya, Lamia et Alain de Monoprix pour être venus dans nos studios. Merci à vous. Et puis,
merci
nous,
à vous. Hein.
Et puis, nous, on vous retrouve pour une prochaine émission de l'actualité des luttes. Et merci à Madeleine pour la technique et ses interventions. Bonne journée à vous. Salut.
Je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nous voilà en respect.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
Et l'actualité des luttes, c'est aussi en rediffusion du lundi au vendredi de 6h30 à 7h30.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutes.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.